En marge d'une plage blanche, 2. Pour Georges Richard. Bain de soleil. Poussette, tu vas te cuire le sang, viens ici tout de suite. Ainsi apostrophée du haut de la terrasse, la chienne Bulle lève seulement son museau de monstre japonais, couleur de bronze. Sa gueule, fendue jusqu'à la nuque, s'entr'ouvre pour un petit allaitement court et continu, fleuri d'une langue frisée, rose comme un bégonia. Le reste de son corps traîne, écrasé comme celui d'une grenouille morte. Elle n'a pas bougé. Elle ne bougera pas. Elle cuit. Une brume de chaleur baigne la baie de Somme, où la marée de morte eau palpite à peine, plate comme un lac. Reculée derrière ce brouillard moite et bleu, la pointe de Saint-Quentin semble frémir et flotter, inconsistante comme un mirage. La belle journée à vivre sans penser, vêtue seulement d'un maillot de laine. Mon pied nu tâte amoureusement la pierre chaude de la terrasse, et je m'amuse de l'entêtement de Poussette qui continue sa cure de soleil avec un sourire de supplicié. « Veux-tu venir ici, sale bête ?» Et je descends l'escalier dont les derniers degrés s'enlisent, recouvert d'un sable plus mobile que l'onde, ce sable vivant qui marche, ondule, se creuse, vole et crée sur la plage, par un jour de vent, des collines qu'il nivelle le lendemain. La plage éblouit et me renvoie au visage, sous ma cloche de paille rabattue jusqu'aux épaules, une chaleur montante, une brusque haleine de four ouvert. Instinctivement, j'abrite mes joues, les mains ouvertes, la tête détournée comme devant un foyer trop ardent. Mes orteils fouillent le sable pour trouver, sous cette cendre blonde et brûlante, la fraîcheur salée, l'humidité de la marée dernière. Midi sonne au crotoy, et mon ombre courte se ramasse à mes pieds, coiffée d'un champignon. Douceur de se sentir sans défense et sous le poids d'un beau jour implacable, d'hésiter, de chanceler une minute, les mollets criblés de mille aiguilles, les reins fourmillant sous le tricot bleu, puis de glisser sur le sable, à côté de la chienne qui bat de la langue. Couchée sur le ventre, un linceul de sable me couvre à demi. Si je bouge, un fin ruisseau de poudre s'épanche au creux de mes jarrets, chatouille la plante de mes pieds. Le menton sur mes bras croisés, le bord de la cloche de jonc borne mes regards, et je puis à mon aise divaguer, me faire une âme nègre à l'ombre d'une paillotte. Sous mon nez sautent, paresseusement, trois puces de mer, aux cordes transparentes agate grise. Chaleur, chaleur. Bourdonnement lointain de la houle qui monte, ou du sang dans mes oreilles. Mort délicieuse et passagère, où ma pensée se dilate, monte, tremble et s'évanouit avec la vapeur azurée qui vibre au-dessus des dunes. À marée basse. Des enfants, des gosses, des mioches, des bambins, des lardons, des salés. L'argot ne saurait suffire. Ils sont trop. Par hasard, en retournant à ma villa isolée et lointaine, je tombe dans cette grenouillère, dans cette tiède cuvette que remplit et laisse chaque jour la mer. Jersey rouge, jersey bleu, culotte troussée, sandales, cloche de paille, béret, charlotte de lingerie, seau, pelle, pliant, guérite, tout cela, qui devrait être charmant, m'inspire de la mélancolie. D'abord, ils sont trop. Et puis, pour une jolie enfant en pommes joufflues et dorées, d'aplomb sur des mollets durs, que de petits parigots victimes d'une foi maternelle et routinière. La mer, c'est si bon pour les enfants! Ils sont là, à demi nus, pitoyables dans leur maigreur nerveuse, gros genoux, cuisseaux de grillon, ventre saillant, leur peau délicate à noircie en un mois jusqu'au marron cigare. C'est tout, et ça suffit. Leurs parents les croient robustes, ils ne sont que teints. Ils ont gardé leurs grands yeux cernés, leurs piètres joues. L'eau corrosive pèle leurs mollets pauvres, trouble leur sommeil d'une fièvre quotidienne, et le moindre accident déchaîne leur rire ou leurs larmes faciles de petits nerveux passés au jus de chic. Pêle-mêle, garçons et filles, on barbote, on mouille le sable d'un fort, on canalise l'eau d'une flaque salée. Deux écrevisses en jersey rouge travaillent côte à côte, frères et sœurs du même blond brûlé, peut-être jumeaux de 7 à 8 ans. Tous deux, sous le bonnet à pompons, ont les mêmes yeux bleus, la même calotte de cheveux coupée au-dessus des sourcils. Pourtant, l'œil ne peut les confondre, et pareil, ils ne se ressemblent pas. je ne saurais dire par quoi la petite fille est déjà une petite fille. Les genoux gauchement et fémininement tournés un peu en dedans. Quelque chose, dans les hanches à peine indiquées, s'évase, plus moelleux, avec une grâce involontaire. Non, c'est surtout le geste qui la révèle. Un petit bras nu, impérieux, commente et dessine tout ce qu'elle dit. Elle a une volte souple du poignet, une mobilité des doigts et de l'épaule, une façon coquette de camper son poing au pli de sa taille future. Un moment, elle laisse tomber sa pelle et son seau, arrange je ne sais quoi sur sa tête. Les bras levés, le dos creux et la nuque penchée, elle devance, gracieuse, le temps où elle nourra, ainsi debout et cambrée, le tulle de sa voilette devant le miroir d'une garçonnière. Forêt de Crécy. Ce pays plat de Picardie m'effare. Sur la route empierrée de porphyre bleuâtre, polie et dure, néfaste aux pneumatiques, qui serpente, revient sur elle-même, tourne en courbe traîtresse derrière un bouquet d'ormes, l'automobile s'essouffle, brise son élan, s'arc-boute sur ses freins, gagne à la main comme une bête rainée trop court. Un peu de vertige me prend, avec la sensation de virer inutilement, de n'aller nulle part. Nous arrivons pourtant à la forêt de Crécy, massive, colossale et majestueuse, imprévue dans ce pays banalement frais, comme une cathédrale au milieu d'une basse-cour. À la première haleine de la forêt, mon cœur se gonfle. Un ancien moi-même se dresse, tressaille d'une triste allégresse, pointe les oreilles avec des narines ouvertes pour boire le parfum. Le vent se meurt sous les allées couvertes, où l'air se balance à peine, lourd, musqué. Une vague molle de parfum guide les pas vers la fraise sauvage, ronde comme une perle, qui mûrit ici en secret, noircit, tremble et tombe, dissoute lentement en suave pourriture framboisée, dont l'arôme enivre, mêlé à celui d'un chèvrefeuille verdâtre, poissé de miel, à celui d'une ronde de champignons blancs. Ils sont nés de cette nuit et soulèvent de leur tête le tapis craquant de feuilles et de brindilles. Ils sont d'un blanc fragile et mat de gants neufs, emperlés, moites comme un nez d'agneau. Ils embaument la truffe fraîche et la tubéreuse. Sous la futaie centenaire, la verte obscurité solennelle ignore le soleil et les oiseaux. L'ombre impérieuse des chênes et des frênes a banni du sol l'herbe, la fleur, la mousse et jusqu'à l'insecte. Un écho nous suit, inquiétant, qui double le rythme de nos pas. On regrette le ramier, la mésange. On désire le bon roux d'un écureuil ou le lumineux petit derrière des lapins. Ici, la forêt, ennemie de l'homme, l'écrase. Tout près de ma joue, collé au tronc de l'orme où je m'adosse, dort un beau papillon crépusculaire dont je sais le nom. Lycéné. Clos, allongé en forme de feuille, il attend son heure. Ce soir, au soleil couché, demain, à l'aube trempée, il ouvrira ses lourdes ailes bigarrées de fauve, de gris et de noir. Il s'épanouira comme une danseuse tournoyante, montrant deux autres ailes plus courtes, éclatantes, d'un rouge de cerise mûre, barrées de velours noir. Dessous voyant, juponnage de fête et de nuit qu'un manteau neutre durant le jour dissimule.